Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Auditeur Jean qui nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com, qui vous a écouté tout à l'heure nous dire, bon, le prochain gros seuil technique à la baisse, le prochain très très gros, hein, voilà, ce serait plutôt 30 000. Il nous demande, Jean, si on passe sous 30 000, que se passera-t-il sur le Bitcoin ?
Pour certains, le réveil a dû être douloureux. Après une année 2021 faste, les actifs financiers ont connu un début d'année 2022 difficile. Aux États-Unis, le Nasdaq a perdu près de 20% entre le 1er et le 26 janvier. Et ce n'est pas grand-chose à côté du Bitcoin. Entre le 27 décembre et le 22 janvier, la crypto-monnaie va perdre plus de 30% de sa valeur et même près de la moitié depuis son record de novembre dernier. Entre mai et juillet 2021, il avait déjà connu une période de forte secousse. L'occasion de rappeler que sur les marchés, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Vous avez le droit d'ignorer Madame Zorba. Parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité, pas pour vous conseiller ou vous dire quoi acheter, mais pour vous aider à comprendre cette actualité. Et aujourd'hui, avec le service marché des Échos, on va se demander à quel jeu joue les influenceurs de la finance.
Fais des vues, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur.
Il s'y connaît, Squeezie, en matière d'influence sur Internet. En quelques années, Lucas est devenu une star sur les réseaux sociaux. En 2019, il comptabilisait plus de 16 millions d'abonnés entre YouTube et Twitch. Mais il a su rester dans son domaine d'influence, le jeu vidéo et l'entertainment au sens large. Pourtant, de plus en plus d'influenceurs exercent aujourd'hui leur notoriété dans un autre domaine, la finance, et plus spécifiquement, le monde magique et un peu obscur des crypto-monnaies, avec plus ou moins de réussite. Bonjour Nessim Haït Kassimi.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos, spécialiste d'échanges et des crypto-monnaies. Vous avez rédigé un article pour les Échos Weekend sur ces stars des réseaux sociaux qui jouent avec la bourse. Les influenceurs seraient-ils tombés sous l'influence de Monsieur Soros ?
Je crois que tout le monde aimerait bien avoir l'influence de George Soros, même si à la grande époque, le grand gérant de hedge fund ne s'exprimait pas trop dans les médias. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on voit une recrudescence justement de ces influenceurs qui essayent de surfer sur les modes et d'influer sur les comportements de petits porteurs qui sont souvent un peu désemparés.
Il y a une date qui compte, le 13 juin 2021. Que s'est-il passé ce jour-là, Nessim ?
Alors ce jour-là, Kim Kardashian a fait donc une publicité mondiale à une obscure crypto qui s'appelait Ethereum Max, qui n'avait absolument rien à voir avec Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto. Et à l'époque, je crois qu'elle avait à peu près autour de 250 millions d'abonnés sur Instagram. Elle vantait un petit peu les mérites de cette crypto en disant que c'était une bonne affaire. Bon, elle était quand même transparente en disant que c'était un message publicitaire. Bilan, le cours s'est en fait envolé très rapidement. Mais après, il s'est totalement effondré.
Ouais, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour soutenir, une fois qu'il y avait eu ces premières vagues d'achats liées aux followers.
Exactement. Ça a créé donc une sorte de bulle spéculative à très court terme. Certains sondages disaient que jusqu'à à peu près 4% des Américains avaient pu succomber à cette tentation d'acheter cette crypto en se disant que finalement, peut-être que d'autres influenceurs allaient soutenir cette crypto. Peut-être qu'il y allait avoir peut-être de nouvelles annonces dans le futur, bien évidemment. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'il n'y a rien eu derrière. Et maintenant, les personnes qui ont fait la publicité de cette crypto doivent en assumer les risques juridiques.
Et notamment Floyd Mayweather, hein, le boxeur aussi, qui avait conseillé cette crypto.
Voilà. Alors le problème, c'est que maintenant, les actions collectives, des class actions ont été engagées contre ces deux promoteurs parce qu'ils estiment qu'il y a une forme de publicité trompeuse, c'est-à-dire que pendant que les influenceurs faisaient grimper le cours de cette crypto, les fondateurs de cette crypto qui en avaient encore en stock en ont profité pour les vendre dans la hausse. Donc ça crée une forme de manipulation et comme souvent aux États-Unis, les avocats vont se saisir de cette sans doute très bonne occasion de faire gagner de l'argent à la fois à leurs clients et à leur propre cabinet en engageant, j'imagine, toute une série de poursuites judiciaires avec les influenceurs, donc à savoir Madame Kardashian et le fameux Floyd Mayweather.
Ouais, c'est vrai que ce conseil a viré à la catastrophe avec des conséquences financières importantes, hein, peut-être pour ces investisseurs. On voit qu'il y aura sans doute des suites. Nessim, qu'est-ce qui attire les influenceurs sur ce business de la finance et des cryptos?
Ils se sont rendus compte que c'est un business extrêmement porteur, avec beaucoup de gens qui se sont intéressés, qui ont commencé à investir sur les cryptos, notamment depuis la crise Covid en 2020. Les gens se sont retrouvés chez eux. Donc en confinement, certains ont commencé à s'intéresser à la finance. D'autres se sont dit « pourquoi ne pas reprendre en main la gestion de mes finances personnelles ?» Ils se sont retrouvés aussi dans une configuration où les marchés étaient extrêmement porteurs. Donc beaucoup ont commencé à s'intéresser à la bourse ou aux cryptos. Ça a bien marché au début pour eux. Ils se sont retrouvés avec des sommes assez importantes. Après, ils se sont tournés un petit peu vers les personnes vers qui ils avaient le plus confiance, c'est-à-dire les influenceurs des réseaux sociaux, parce qu'eux-mêmes passent un temps extrêmement important là-dessus. Ils n'ont pas vraiment confiance dans les conseils que peuvent prodiguer les instances classiques. On parle de la presse économique, on parle des conseillers financiers. Donc, ils étaient à l'aise. Et puis, les influenceurs se sont dit que c'était un business extrêmement lucratif.
On a parlé de Kim Kardashian. Mais qui sont les nouvelles stars de l'influence en finance?
Alors, certaines ont quand même eu des durées de vie un peu limitées. Notamment, certaines ont eu leur heure de gloire durant la crise du Covid. Je pense notamment à Dave Portnoy, qui était un fondateur d'un blog de sport et un petit peu de contre-culture. Et qui, lui, a été la star pendant une grande partie de l'année 2020. Il a eu des millions d'abonnés. Il faisait des vidéos, tout le monde le trouvait marrant et finalement, beaucoup de personnes étaient prêtes à suivre ses conseils.
Okay, Vlad, you know everybody here is watching us hates your guts, right?
Well, worst of luck tomorrow night. Billy's gonna kick your ass.
This is what I deal with every day.
Yeah, it's pretty disgusting.
Man. Welcome to the gangbang.
Alors, Dave, depuis, il est quand même revenu à son domaine de compétence, c'est-à-dire le sport. Je pense aussi à Keith Gill, qui était un des animateurs, vous savez, du forum Les Paris de Wall Street sur le site communautaire Reddit. C'est sur ce site duquel était partie la révolte, vous savez, contre les puissances et les fonds de Wall Street. C'était en début 2021. Les petits porteurs s'étaient coalisés pour faire monter le titre de société, donc gagner de l'argent grâce à leur action collective, et en même temps infliger des pertes aux fonds spéculatifs qui, eux, pariaient sur la chute de ces titres. Et donc, Keith Gill était un des animateurs, en fait, de ce forum. En étant extrêmement présent, avec beaucoup de persuasion, il a incité les membres de ce forum à suivre son exemple, c'est-à-dire d'acheter des actions GameStop. Lui, il était acheteur depuis plus de 2 ans, et il a, à cette occasion-là, enregistré et connu une fortune absolument considérable. On parle de 30 à 50 millions de dollars. Donc, c'est devenu un peu une sorte d'icône et d'idole des petits porteurs, justement, pour avoir tenu envers et contre tous, contre les fonds, et en même temps, avoir réussi à engranger une fortune personnelle extrêmement forte.
Or maybe not, maybe Josh Richards wanted Bitcoin. Let's go to him, now only 19 years old, making millions on TikTok and deploying that money into business. That's why his team is called Animal Capital. It's great to have you here. Josh, what's your pick?
Nessim, certains influenceurs de la finance sont extrêmement jeunes, à l'image de Josh Richards, qu'on vient d'entendre ici, invité en 2021 de la chaîne financière CNBC, excusez du peu, et il recommandait d'acheter du AMD. Il avait eu du flair d'ailleurs, hein, car la valeur allait presque doubler entre avril et novembre 2021. Mais qui est-il, hein?
Alors lui, il est venu sur la finance un petit peu sur le tard presque. Il a commencé en fait à faire de l'influence dans les domaines un petit peu classiques des jeunes stars, des réseaux et de TikTok. Et en fait, il a décidé de s'intéresser à la finance et de cofonder en fait un fonds de capital investissement. Et il a réussi à attirer en fait des investisseurs professionnels, des anciens banquiers de Wall Street, qui ont clairement vu qu'il avait une audience extrêmement forte. On parle de 25 millions d'abonnés. Et donc, justement, les banquiers voient un potentiel extrêmement important pour monétiser cette audience. Donc, c'est un personnage extrêmement intéressant pour eux pour capter à la fois une audience jeune, dynamique et qui soit un petit peu en phase avec les investissements que va faire sans doute ce fonds. Bon, on n'a pas encore véritablement d'idée, mais on peut penser que c'est un petit peu sur tous les nouveaux secteurs porteurs de la nouvelle économie, de la transformation digitale, sans doute peut-être des cryptos aussi. Donc, quelque part, vous avez un gérant qui est en phase à la fois avec son audience, son pool d'investisseurs potentiels et les secteurs dans lesquels il est susceptible d'investir.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des techniques aussi bien rodées pour attirer et puis pour conseiller les followers.
Alors, sur TikTok, par exemple, tout le monde sait qu'il faut faire des vidéos extrêmement courtes avec de la musique, avec des slogans extrêmement forts pour capter en fait une audience et une attention qui est extrêmement limitée. Donc, ils passent leur temps en fait à observer ça, à affiner leur technique de vente. Ils auront en fait 20-30 secondes pour vendre à la fois leur message, leur idée, leurs compétences. Alors, dans la pratique, on constate quand même que dans les conseils d'investissement qu'ils font, il y a assez peu d'originalité. Ils voient par exemple que l'action Tesla en ce moment est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, donc eux-mêmes se joignent au mouvement en rajoutant une petite touche personnelle. Donc rarement, ils s'écartent, on va dire, du mouvement un petit peu dominant sur les marchés. Ils ne veulent pas véritablement prendre de risques en conseillant une société dont personne n'a entendu parler. Souvent aussi, ils conseillent à l'achat des sociétés qui sont extrêmement populaires parmi les 18-25 ans. Parce qu'ils aiment beaucoup cette société, donc quelque part, ils se disent « J'aime cette société, je suis un consommateur extrêmement satisfait, donc pourquoi ne pas investir aussi dessus ?» Voilà, donc c'est quand même une technique de marketing très courte, assez agressive, qui finalement ne prend pas véritablement de risque dans ses recommandations.
Here's how you can make $100 a day without doing anything. First, instead of wasting $50,000 on college, take that money and buy $50,000 worth of cryptocurrency.
Les influenceurs sont des gens pressés, ils ont un débit vocal élevé et surjouent les affects, les grimaces et les ricanements, hein, c'est ce que vous écrivez dans votre article. On voit hein, que certains sont aussi rémunérés pour conseiller des sites, par exemple, ou des crypto-monnaies. Ça peut rapporter gros.
Oui, ça rapporte beaucoup d'argent, les sommes qui circulent sont extrêmement importantes. Alors, récemment, un article du Wall Street Journal a pointé un phénomène assez intéressant. Alors, il concerne véritablement les influenceurs au sens large, c'est-à-dire les plus grands influenceurs de TikTok, dont le salaire maintenant dépasse celui des PDG des grandes sociétés américaines. Là, on parle des influenceurs qui sont vraiment au top niveau de TikTok. Pour les influenceurs spécialisés dans la finance, on a aussi des rémunérations extrêmement importantes parce que pour la plupart maintenant, quand ils font par exemple une recommandation de par exemple d'acheter du Bitcoin ou de l'Ether, ils incitent après leurs abonnés à se reporter sur une plateforme de trading sur laquelle ils pourront acheter ou vendre ces cryptos. Donc bien évidemment, les plateformes rémunèrent ces apporteurs d'affaires entre guillemets et qui leur rebasculent des clients en leur reversant une certaine somme par nouveau client qui leur apporte. Donc effectivement, oui, on peut gagner. Les chiffres qui circulent vont de 100 000 à presque 1 million de dollars par an.
On ne parle pas ici de produits de beauté, de jeux vidéo, de produits de consommation courant, mais d'investissement, ou plutôt de spéculation, hein, concernant notamment les cryptos. Pourquoi les personnes qui suivent ces stars se laissent-elles influencer alors que, encore une fois, elles ne viennent pas forcément du monde de la finance?
Elles peuvent à tort estimer que si ces influenceurs ont un tel succès, c'est que quelque part, ils ont une compétence particulière et qu'ils ont eux-mêmes profité des conseils qu'ils finalement donnent aux autres. Beaucoup d'influenceurs essayent d'attirer les clients en leur disant « ça a marché pour moi, je suis devenu millionnaire, donc quelque part, je vais vous en faire profiter ». Alors certains y ajoutent à leurs conseils des sortes de semi-formations, alors parfois payantes, pour justement devenir un meilleur trader, un meilleur gestionnaire, un meilleur analyste de crypto. Donc, bien évidemment, c'est des formations qui, dans la pratique, n'ont pas véritablement de valeur. C'est des choses, des vidéos qui durent à peu près une demi-heure et qui sont facturées, ça dépend, de 100 à 1000 dollars, par exemple. Donc, rapidement, les personnes estiment que, grâce à ça, elles vont pouvoir mieux gérer leur argent, etc.
Ces influenceurs surfent vraiment aussi sur la mauvaise image des banques et de Wall Street?
Oui, alors c'est vrai que plus d'une décennie, en fait, à peu près toutes les professions classiques de la finance, que ce soit les analystes, les traders, les conseillers financiers, ont été pris dans des séries de scandales. Et les particuliers estiment que, quelque part, ils ont du mal à leur faire confiance. Donc, ils sont prêts, finalement, à prendre le risque d'écouter les influenceurs qui, comme eux, ont à peu près les mêmes codes, les mêmes références culturelles. Ils se sentent peut-être plus à l'aise et peut-être plus en confiance parce qu'ils ont devant eux quelqu'un qui leur ressemble, et puis surtout qui surjoue le succès et la success story.
Et aussi le côté rebelle de la finance.
Bien sûr. C'est souvent d'ailleurs un des arguments des influenceurs en disant ce que les banques ne vous disent pas, ce que vous n'entendrez jamais à Wall Street, etc. etc.
On a parlé des cryptos, mais ils investissent aussi sur les marchés actions. Quels sont leurs terrains de jeu préférés?
Alors en fait, ils essayent d'attirer les investisseurs vers les actifs qui sont un petit peu les plus en vogue du moment. Alors, on a vu les actions, les cryptos. Maintenant, je pense que les NFT Vous savez, c'est les certificats numériques qui sont associés à des vidéos, à des GIFs, à des mèmes, à des œuvres d'art digitales, qui ont connu un engouement spéculatif extrêmement important. Donc je pense que c'est aussi un des nouveaux terrains de chasse des influenceurs, des investisseurs aussi, des investisseurs classiques, mais aussi pas mal d'escrocs qui vont essayer de faire investir des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose vers des produits qui sont sans doute, peut-être dans certains cas très rentables, mais aussi extrêmement risqués.
Il y a un chiffre dingue, moi, dans votre article pour les Éco-Weekends. 4% des Américains ont quitté leur emploi durant les 12 derniers mois grâce à leurs profits sur le trading de crypto-monnaies. C'est ce que dit un sondage de Civic Science. Le début d'année 2022 a dû faire très mal.
Oui, alors c'est vrai que le chiffre est important. Vous savez que les États-Unis ont connu ce phénomène dont on parle assez régulièrement, qui s'appelle la Grande Démission. Depuis à peu près 2 ans, vous avez un nombre extrêmement important de personnes qui ont quitté leur emploi, alors pour différentes raisons. Mais pour certains, effectivement, ça semble être lié à leurs gains sur les cryptos. Alors, le sondage donnait un chiffre quand même assez intéressant en disant que beaucoup étaient partis grâce à leurs gains sur les cryptos, mais avec des gains qui étaient quand même inférieurs à 50 000 $. Ce qui n'est pas énorme quand même pour envisager une fin de carrière. Alors, soit ils estiment que maintenant, après ces gains, ils vont être sans doute mieux en mesure de spéculer qu'après 1 ou 2 ans de trading, ils s'estiment maintenant des opérateurs extrêmement confirmés. Mais c'est vrai que depuis le sommet aux alentours de la mi-novembre, les marchés des cryptos connaissent une correction assez forte, une volatilité importante. Donc c'est vrai que 2022 risque d'être assez délicat pour beaucoup de novices qui estiment qu'on peut gagner de l'argent à court terme de manière systématique en faisant du trading de crypto-monnaies.
L'agence financière Bloomberg a d'ailleurs pris sa calculette. Elle estimait qu'en 3 mois, depuis le record de novembre 2021, les possesseurs de Bitcoin, Ether, Dogecoin et autres crypto-monnaies ont perdu l'équivalent de 1 000 milliards de dollars avec la chute des cours.
Vous êtes à découvert.
Heureusement que je suis pas flic. À découvert. Planque.
Et c'est sûr, ça a dû piquer un peu, même si depuis le cours de certaines crypto-monnaies s'est redressé. En France aussi, les cryptos et les NFT séduisent une partie de la population. Selon un sondage de l'IFOP, 3,5% des Français en ont déjà acheté. Nessim, on parlait des fines influenceurs américains. Qu'en est-il en France?
Alors en France, le phénomène est un peu moins marqué. Alors, vous savez, il y a eu la fameuse affaire de Nabila qui a été rappelée à l'ordre par les autorités pour une publicité sur une plateforme de trading de crypto, sans avoir mentionné qu'elle avait été rémunérée pour cette publicité. Donc je pense que ça fait peut-être un peu réfléchir le monde des influenceurs, et notamment je pense à beaucoup de personnes qui sont actuellement ou ont été dans la télé-réalité. Vous savez qu'on a à peu près une trentaine de personnes qui captent quand même une audience extrêmement forte, que ce soit sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça fait quand même peut-être maintenant un peu réfléchir ces personnes qui doivent peut-être estimer que faire de l'influence dans la finance risque quand même d'avoir des conséquences pas négligeables, que ce soit en termes de problèmes juridiques ou autres, et peut-être vont rester cantonnés sur les domaines plus classiques comme les produits de beauté, etc.
Il n'y a pas non plus la même culture financière ni le même intérêt pour la finance qu'aux États-Unis. Hein.
Non, c'est un peu moins marqué, même si quand même les chiffres là, je crois que c'était le rapport de l'autorité des marchés financiers, montraient qu'il y avait quand même un nombre extrêmement important de nouveaux investisseurs qui étaient arrivés sur les marchés boursiers depuis le début de la crise du Covid. Donc c'est vrai, alors peut-être que les gens sont plus méfiants, il y a eu peut-être aussi les effets des campagnes un peu diverses menées par les autorités pour avertir les personnes que justement les conseils sur les réseaux sociaux n'étaient jamais gratuits, étaient par principe intéressés de la part de ceux qui les prodiguent. Mais on ne peut pas exclure quand même qu'on ait des mauvaises surprises.
NFT, crypto-monnaie, de nouveaux actifs financiers pour de nouveaux investisseurs.
Aujourd'hui, Consomac vous invite à la plus grande prudence si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. Il s'agit de crypto-actifs comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Ripple. Ce sont par nature des investissements très spéculatifs. L'autorité des marchés financiers vous alerte sur le nombre considérable d'escroqueries concernant les crypto-actifs.
Bonjour Laurence Boisseau.
Bonjour Pierrick Fay.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos. On vient d'entendre cette vidéo de l'Institut national de la consommation. Elle date de 2018. Depuis, l'utilisation de ces actifs s'est étendue. Quelle est la position de l'AMF sur ce phénomène des fines influenceurs sur les marchés?
Alors, l'AMF a tout à fait conscience que les réseaux sociaux et les influenceurs sont le nouveau point d'entrée apparu ces dernières années. Et par conséquent, ans, elle est très vigilante sur ce point. En 2018, déjà, quand Nabila avait vanté les mérites du Bitcoin, elle avait lancé sur Twitter un avertissement sur les risques en réponse à la Starlette, en fait. Le régulateur l'avait interpellée de la manière suivante. Nabila, le Bitcoin, c'est risqué. On peut perdre toute sa mise. Il n'y a pas de placement miracle. Restez à l'écart.
À Laurence, hein, l'AMF est vigilante, vous le disiez. Le gendarme de la bourse l'est d'autant plus. Face aussi à ce constat, les jeunes sont de plus en plus victimes d'escroqueries et d'arnaques.
Oui, c'est un fait nouveau. Les escrocs ciblent désormais les jeunes et les CSP, les catégories socio-professionnelles, moins. Ce sont des personnes qui sont plus fragiles et plus faciles à convaincre car elles ont moins d'expérience dans la gestion de leur épargne. Elles sont par conséquent plus enclines à prendre des risques. Et le mode opératoire des escrocs, en fait, il finit par être assez bien rodé. Sur Instagram, TikTok, Snapchat, les influenceurs partagent de faux bons plans pour inciter les jeunes à se former au trading ou pour acheter des crypto-actifs. Et les applications de messagerie privée démultiplient ensuite l'impact de ces arnaques.
Et avec la crise du Covid-19, les promesses d'argent facile explosent sur Internet. Les arnaques financières ont fait perdre près de 500 millions d'euros en français cette année, selon le parquet de Paris. Selon l'AMF, cette fois, 1% de la population française a déjà été la victime avérée d'une escroquerie au cours des dernières années. Il n'y a pas que les fraudes au Bitcoin ou au trading sur les marchés d'échange. On parle aussi d'arnaques aux faux livrets, aux faux crédits, aux fausses offres d'investissement dans des places de parking d'aéroports ou même dans des chambres d'EHPAD. Laurence, l'AMF n'est pas seule à lutter. L'influenceuse Nabila a aussi été sanctionnée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour quelle raison ?
Elle a été coupée d'une amende de 20 000 euros pour pratique commerciale trompeuse, donc suite à une enquête de la DGCCRF, comme vous le disiez. En fait, elle avait fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela. Et en ne mentionnant pas le conflit d'intérêts, ses abonnés peuvent croire à tort que la promotion de l'influenceuse résulte d'une expérience personnelle, positive et désintéressée. Ce qui n'était pas le cas, évidemment. Le montant de la sanction peut sembler peu élevé. 20 000 euros pour Nabila, c'est sans doute pas grand-chose. Mais c'est quand même un avertissement donné aux influenceurs et c'est le début de sanctions qui pourraient peut-être à terme être plus importantes si la DGCCRF arrivait à avoir au niveau de la loi plus de possibilités de sanctionner.
If you bought $1,000 of Solana at the start of the year on January 1st, 2021, you'll have $1,000. On February 1st, you have $2,542. On March 1st, you have $8,332. On April 1st, you're at $10,659.
Ah, si vous tapez crypto sur TikTok, vous pouvez voir une foule de vidéos visionnées plus de 18 milliards de fois, dont celle de Rich Investing. 471 000 likes pour sa vidéo sur la crypto Solana en novembre 2021 et dont le cours est passé de 210 euros à 75 euros en moins de 2 mois. Laurence, on sent quand même les autorités financières assez démunies face à ce phénomène.
Clairement, les autorités sont démunies. Alors du coup, l'arme la plus efficace, c'est la prévention contre les arnaques. Et l'AMF et la CPR, donc le régulateur des banques et des assurances, publient régulièrement des mises en garde et mettent à jour des listes noires d'acteurs non autorisés. Et depuis 2019, le nombre de sites inscrits sur ces listes noires a triplé.
Merci Laurence Boisseau et merci Nessim Haïd Kassimi du service Marché des Échos. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages tous les jours dans le journal et sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.